Conoïde au moncule. Voilà bien plus abstru que mes amphigouries. Ah, se déboutonner face à la turlutaine. Dégoiser à gogo des godans, des églogues. Escobarder, gausser, morguer, ribon, riben. Se gaudir avec vous et conjouir dans les gogues. J'ai quelques rimbobos de voir le peuple heureux quand les mots raraissants de mes odes langantes. Glossographe averti, métromane ubéreux, je veux lui impétrer la belle paragan. Si, brodi, broda, pourtant berlu coquet, public chéri, j'usais d'un canulan babile. Déseuré, défléchi de me voir forligné, rogneux, tu gaberais mon verbiage labile. Hein? En d'autres termes, tu ne me comprendrais pas.
Thank you. Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, de la Fédération anarchiste. C'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme presque chaque mercredi matin de 9h30 à 10h30. Et bonjour Sylvie.
Bonjour.
Nous allons aborder un autre livre aujourd'hui que celui dont nous parlions pendant plusieurs semaines, Je ne serai plus psychiatre, de Gérard Hoff. Ça va être celui de Jörg Blech, Les inventeurs de maladies, sous-titré Manœuvres et manipulations de l'industrie pharmaceutique. C'est aux éditions Babel et ça a été édité en 2008.
Voilà. Je ne suis pas sûre qu'il soit encore disponible. Moi je veux dire, ce livre.
Moi non plus. Pour commencer, je vais lire un article concernant le TDAH. Alors, qu'est-ce que c'est le TDAH ? C'est le trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité. Qui est aussi dans la liste, des maladies évoquées par Jörg Blech dans Les inventeurs de maladies, et dont on va parler. Tu avais peut-être une annonce à faire bientôt à Publico, quelque chose.
Oui, pour commencer, oui. Dimanche prochain, le groupe libertaire d'Ivry, donc dont je fais partie, organise dimanche prochain à Publico, 145 rue Amelot, métro République, Oberkampfli du Calvaire, une projection débat à 16h. On accueille dès 15h. Ce qui est sur, c'est un court métrage. C'est le thème du débat, de la discussion, c'est une discussion quoi, un peu informelle. C'est jeux vidéo et politique, et le court métrage, j'ai eu un peu de mal à trouver ça, quelque chose qui soit pas fait par des universitaires. C'était un court métrage qui a été réalisé par des joueurs et qui parle du sexisme dans les jeux vidéo. Et on parlera aussi d'ailleurs du sexisme dans le milieu du jeu vidéo, mais pas seulement. On s'interrogera sur les jeux vidéo qui sont un support comme un autre, hein, comme on dirait le cinéma, la littérature, la BD, etc., qui supportent toutes sortes d'idées politiques, on va dire, et en s'interrogeant pour savoir s'il existe des jeux qui luttent contre toutes les discriminations, contre l'État, contre le capitalisme, contre la religion, ou même, pourquoi pas, des jeux vidéo anarchistes. Voilà. Donc c'est dimanche prochain à Publico.
Alors, un article de Libé du vendredi 27 septembre 2024, intitulé « Des pistes pour améliorer diagnostic et traitement des troubles de l'attention chez l'enfant ». Troubles de l'attention, hyperactivité, hyperactivité, impulsivité. Diagnostiquer les enfants et adolescents souffrant de TDAH le plus tôt possible est essentiel, juge la Haute Autorité de Santé qui publie lundi une liste de recommandations pour améliorer leur prise en charge, aujourd'hui inégale. Plusieurs maîtresses trouvaient qu'il n'écoutait rien à l'école. À la maison, il était extrêmement turbulent. Camille Théron, dont le fils est aujourd'hui âgé de 14 ans, a consulté un grand nombre de spécialistes, ORL, pédiatres, orthophonistes, psychologues, avant qu'un psychiatre ne mette finalement le nom de TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, sur ses problèmes de comportement. Un parcours long. On a erré de la moyenne section jusqu'au CE2, résume-t-elle. Pendant longtemps, ce trouble a été une réalité souvent niée, expose Christine Gétin, directrice de l'association Hyper Super TDAH France.
Carrément.
Ouais. Qui a saisi la HAS, la Haute Autorité de Santé, avec le ministère de la Santé pour faire avancer le sujet. Ils étaient vus comme des enfants agités et pas très bien élevés. Le problème venait soi-disant de leur éducation, avec une grande culpabilité mise sur les mères, comme s'il n'y avait pas de réalité scientifique derrière ces troubles, poursuivent-elles. Classés dans la catégorie des troubles de neurodéveloppement, leur prévalence est estimée chez l'enfant autour de 5% dans le monde. Quand un trouble est à ce point fréquent, on ne peut pas réserver le diagnostic et la prise en charge à un tout petit nombre de spécialistes, estime Olivier Bonneau, professeur de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent à l'université Paris-Saclay, qui a présidé le groupe de travail de la HAS. En 2015, la Haute Autorité de Santé avait pour la première fois formulé des recommandations pour mieux les repérer. Près de 10 ans plus tard, elle va plus loin en expliquant comment poser un diagnostic. Celui-ci doit reposer, selon elle, sur un entretien avec l'enfant et ses parents afin d'évaluer le développement de l'enfant dans toutes ses dimensions, neurologiques, psychomotrices, affectives, etc. Il doit également comprendre un examen clinique et un recueil d'informations auprès de son entourage, familial, scolaire. Ce qui fait la subtilité du diagnostic, c'est que de nombreux enfants peuvent avoir l'air impulsif ou présenter des troubles de l'attention, rappelle Olivier Bonneau. Cette fois, on dispose enfin d'une procédure claire pour établir un diagnostic médical cadré et qui sera gravé dans le marbre, se félicite Christine Gétin. La Haute Autorité de Santé va plus loin en édictant des recommandations pour le traitement. En première intention, des interventions entre guillemets non médicamenteuses sont préconisées, telles que la psychoéducation, qui consiste à délivrer des informations sur le TDAH, ses impacts et comment fonctionner avec ce trouble. La reconnaissance et la compréhension des difficultés présentées par l'enfant ont un retentissement positif sur sa qualité de vie et ses relations intrafamiliales, écrit-elle. En complément, si besoin, et selon la gravité du trouble, un traitement médicamenteux sera peut-être prescrit, recommande la HAS. La seule molécule disponible en France concernant le traitement du TDAH chez l'enfant à partir de 6 ans et l'adolescent est le méthylphénidate, plus connu commercialement sous le nom de Ritaline. Actuellement, seuls les pédiatres, psychiatres et neurologues pour enfants sont autorisés à initier un tel traitement. En France, je cite, les professionnels prenant en charge les enfants présentant un TDAH sont encore peu nombreux et répartis inégalement sur le territoire, regrette la HAS, ce qui entraîne un allongement du délai de diagnostic et d'intervention. Oui, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans ce laps de temps. Dans l'objectif d'élargir l'offre de soins, la HAS appelle les pouvoirs publics à étendre ses compétences à d'autres médecins généralistes notamment, en mettant en place une formation structurée et diplômante. Aujourd'hui, les délais sont tellement longs pour obtenir un rendez-vous avec un psy que des parents désarmés dépensent souvent des sommes astronomiques pour faire des bilans en tout genre qui ne sont pas forcément utiles, alerte Christine Gétin. Le délai moyen avant le bon diagnostic est estimé actuellement entre 3 et 6 ans, rappelle Olivier Bonneau. Or, à hauteur d'enfant, 6 mois, c'est presque une année scolaire. Voilà. Donc,
Est-ce que je peux faire un commentaire déjà, oui, avant de passer au bouquin? Oui. Ben, le fait de désigner des enfants comme étant malades, et en particulier de la part des enseignants, ben, je l'ai connu pour mon propre cas, puisque j'étais quand même un petit peu rebelle étant enfant. Je me suis fait virer d'ailleurs du collège en 6e et en 5e. En 5e, on m'avait mis chez les bonnes sœurs, elles m'ont supporté difficilement pendant un an. Mais quand c'était mes enfants, ben autant dire. Mais c'était pas d'ailleurs des enfants très si agités que ça. Enfin, je trouvais pas. Enfin, tu les as connus. C'est vrai qu'il y en avait un particulier qui était un peu rock'n'roll. Mais enfin bon, c'était pas rien de très ordinaire. Attends, c'est ce que tu vas répondre. Mais enfin, je veux dire, à part ça, toutes les 5 minutes, t'avais les, comme c'était le cas pour moi quand j'étais enfant, t'avais les instits qui demandaient à voir les parents, enfin en particulier la mère. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'ils disaient, on incriminait la mère, pourquoi on incriminait spécialement la mère?
Oui.
S'il y a un problème familial, ça aurait pu venir du père, mais non, c'est la mère.
Oui, ça peut être multifactoriel, en
bah
plus.
Bah oui, en plus, mais pourquoi justement la mère? C'est comme ça, c'est la faute de la mère et tout.
Ou l'institution scolaire.
Oui, ou même il a pas de problème du tout. Quoi.
Aussi, oui, aussi.
Est-ce qu'il n'est pas tout à fait normal quand tu te fais chier? Bah, tu vois, par exemple, je me souviens que on nous avait envoyé chez le psychologue scolaire, c'était à la maternelle, à la première classe de maternelle. Mon fils aîné et tout, la maîtresse était ulcérée parce qu'elle lui dit maintenant tu mets des triangles dans des triangles, des ronds dans des ronds et des carrés dans les carrés. Il a répondu je vois pas l'intérêt. Il était vert. Donc, hop, chez le psychologue scolaire. Et donc le psy nous dit quand ça l'intéresse pas, il écoute pas. J'ai dit je vous dirais que je suis
comme tout le monde un peu.
Et d'ailleurs j'étais complètement, mais j'en avais tellement marre de cette situation, parce qu'autant le dire, les deux ont été des cancres avant de se retrouver au lycée autogéré, où comme c'était libre de pas y aller, ils y allaient pas, tu vois. Mais en effet, c'était pas des enragés de se faire chier, hein, d'une façon générale. Et dans la mesure où peut-être ils se sentaient un peu soutenus, tu vois, j'avais vu par-dessus l'épaule de je sais plus quel psy, un diagnostic me concernant moi. La mère semble hostile aux institutions. Et à chaque fois, je les envoyais balader, quoi. Et ils n'étaient pas habitués. Et la plupart des parents me disaient, il y avait des parents qui ne supportaient pas ça, mais ils disaient j'ai peur des représailles. Parce que c'est des gens qui ont un pouvoir sur leur enfant, tu vois. Et donc, sur l'idée de, par exemple, il n'écoute pas. Tu vois, ce qui est un motif pour te prescrire un médicament pour être plus attentif, d'après ce que j'ai vu dans le bouquin, je répondais, il y a un instit à qui j'avais dit, vous êtes être moins chiant. Mais écoute, c'est vrai. Je leur disais, mais enfin, c'est incroyable, il n'y a que les enseignants pour appeler les parents et tout de quelqu'un qu'ils emmerdent. Enfin, moi, je sais pas, si jamais quelqu'un m'écoute pas, je me dis, bon, peut-être je l'embête, tu vois, je vais pas appeler ses parents pour dire comment ça se fait qu'il m'embête pas, pourriez-vous m'aider, est-ce qu'il écoute mes monologues interminables, enfin, tu vois, c'était ça. Donc, en effet, il y en a qui nous ont même conseillé de les coller sous médicaments, et je veux dire, on n'a jamais vu la nécessité, mais il y avait des parents qui se laissaient on va dire baratiner, quoi. Voilà.
Et bien sûr, dans la lancée, donc on va, je vais vous lire quelques extraits du chapitre 6 du livre de Jörg Blech, Les inventeurs de maladies, le chapitre 6 intitulé Psychotropes et cours de récré. Les petits comprimés blancs transforment les enfants. Nina, par exemple, une écolière de 8 ans qui vit à Mittelehrenbach, en Suisse franconienne, avait autrefois sans arrêt la bougeotte. Elle passait 3 heures à faire ses devoirs et disait à sa mère « J'ai tellement de choses dans la tête !» Mais depuis un an et demi, tout a changé. Nina prend maintenant chaque jour des cachets pour la concentration, ainsi que les a baptisés sa famille. Elle suit mieux à l'école et fait des choses plus consciencieusement, raconte la mère de Nina, tandis que sa fille joue un petit air à la flûte. Elle-même a longtemps hésité avant de mettre
au secours. Je vais ton gamin à la flûte. J'ai doublement bien fait de pas leur mettre de Ritaline.
Elle-même a longtemps hésité avant de faire mettre sa fille sous traitement. Mais sans la Ritaline, rien ne marche. Nina voudrait bien fonctionner comme tout le monde. Félix aussi, un petit blondinet de 9 ans, originaire de Forchheim, non loin de Mittelehrenbach, a changé en bien d'après ses parents. Auparavant, leur fils était toujours à s'agiter, incapable de rester calme et de se concentrer, déclare la maman. Il y avait quelque chose qui clochait chez cet enfant. Aujourd'hui, elle a changé d'avis. Depuis que Félix prend chaque jour de la Ritaline, il serait plus accessible. Maintenant, il arrive parfois à s'asseoir et à lire un livre. À l'école aussi, tout se passerait bien mieux. Aujourd'hui, Félix a quand même réussi à avoir un C+ en dictée. La maman se réjouit. la ritaline, c'est quand même un remède miracle. Tout comme Nina et Félix, plus de 50 000 enfants prennent chaque jour en Allemagne des psychostimulants destinés à les rendre plus calmes et plus attentifs. Alors ça, c'était en 2008. 2007, 2008, enfin dans cette époque. Donc, les comprimés sont censés combattre un trouble qui se répand comme une épidémie, le trouble déficitaire de l'attention, TDA, souvent lié à l'hyperactivité, TDAH. En même temps que le nombre de diagnostics, le nombre de petits consommateurs augmente dramatiquement. La Ritaline et le Medikinet, son concurrent en Allemagne, atteignent des ventes sans précédent. À Bonn, la division du contrôle des stupéfiants signale que la consommation de méthylphénidate, principe actif de ces médicaments, a récemment connu une augmentation en flèche. En agissant directement dans le cerveau, ce stimulant améliore l'attention. Si la consommation de méthylphénidate s'élevait en 1993 à quelques 34 kilos, elle atteignait déjà 693 kilos en 2001. En l'espace de 10 ans à peine, la consommation a ainsi été multipliée par plus de 20. Le nombre de prescriptions est cependant largement dépassé par le nombre de parents craignant que leur progéniture ne soit atteinte de la sinistre maladie. Plus de 60 livres en langue allemande ont pour thème le TDAH et viennent étancher leur soif d'information. Lors de manifestations, des centaines de spectateurs écoutent religieusement les psychologues, médecins et témoins s'affronter sur les questions essentielles. Comment puis-je reconnaître si mon enfant est touché ? À qui incombe la faute ? À l'éducation parentale ou aux gènes ? La Ritaline est-elle efficace ? Et surtout, le TDAH est-il une véritable maladie ou simplement un phénomène de mode ? Comme toujours, lorsqu'il s'agit de l'éducation et du bien-être des enfants, le débat est passionné et chargé d'accusations diverses. Un parent qui administre à son enfant la pilule d'obéissance passe vite pour un parent indigne. Mais quiconque se dit contre la Ritaline est tout aussi rapidement soupçonné d'être un sympathisant de la scientologie. La secte diabolise en effet toutes les drogues psychiques qu'elle qualifie d'objets de Satan, tout en présentant son propre lavage de cerveau comme la clé d'une vie meilleure. Pour corser le tout, d'horribles histoires sur l'utilisation détournée du méthylphénidate contribuent à échauffer l'ambiance. Aux États-Unis, des adolescents et de jeunes adultes consomment même la pilule d'obéissance comme une drogue de bien-être qui couperait la faim et empêcherait la fatigue. Les comprimés sont pris par voie orale ou écrasés, puis sniffés. Certains dissolvent les comprimés dans de l'eau avant de s'injecter le mélange, rapporte le ministère de la Justice américain. Les injections pourraient en outre entraîner de graves dommages sur les poumons et la rétine et causer une dépendance psychique sérieuse, met en garde le même ministère. En Allemagne, le TDAH est aujourd'hui le trouble psychique le plus fréquemment diagnostiqué chez l'enfant et l'adolescent, tout comme aux États-Unis, où l'on estime à 5 millions le nombre d'élèves sous méthylphénidate. D'après ces estimations, 2 à 10% des enfants seraient concernés, ce qui revient à dire que chaque classe compterait jusqu'à 2 enfants remuants pour lesquels une prise en charge médicale serait nécessaire. L'hystérie liée au TDAH, alors donc on pardonnera à l'auteur l'emploi du mot hystérie.
C'est peut-être une mauvaise traduction.
Peut-être.
Peut-être.
Ne connaît plus de limites. Les médecins ne sont pas les seuls à rechercher le cas non encore détecté. Les enseignants aussi passent leur classe au peigne fin. Dans des écoles de Hambourg, des tracts aide à l'entraide circulent ainsi dans le but d'attirer l'attention des enseignants sur les enfants touchés. Pour Félix, par exemple, c'est l'institutrice qui insista pour qu'un examen médical soit fait. Peu après, l'enfant reçut sa première dose de petit poison, nom donné au méthylphénidate par certains parents de la ville franconienne. Ailleurs, des mères appellent leurs enfants sur leur portable ou leur envoient des textos pour leur rappeler de prendre leur comprimé pendant la deuxième récréation. Parfois, ce sont même les enseignants qui donnent aux enfants leurs médicaments, ce qui se révèle délicat d'un point de vue juridique,
car il s'agit là d'un stupéfiant. Les élèves plus âgés sont équipés de piluliers qui sonnent dès que le comprimé doit être pris. Là, vraiment, c'est une sorte de psychiatrisation de...
Oui. Ça les prépare pour la suite. Par exemple, admettons qu'ils se sentent mal au boulot. C'est une maladie de se sentir mal au boulot. Ben, ils pourront se bourrer de tranquillisants, somnifères, etc. T'es sur les rails, quoi.
Depuis peu, un nombre croissant d'adultes sont également considérés comme atteints d'inattention pathologique et d'agitation fébrile maladive. L'hyperactivité n'est pas une maladie infantile, affirme la Société allemande de psychiatrie, de psychothérapie et de neurologie. Jusqu'à 2 millions d'adultes souffriraient en Allemagne de symptômes correspondants. Des troubles de la concentration et une impulsivité sans but les empêchent de surmonter le quotidien. Par bonheur, les psychotropes viennent à leur secours. Il aurait en effet été démontré que les adultes, tout comme les enfants, réagissent bien aux médicaments stimulants. L'industrie s'est d'ailleurs déjà approprié le groupe cible des adultes. Le TDAH a un compagnon pour la vie, exulte la multinationale Novartis, qui fabrique la Ritaline. En mai 2002, l'entreprise a organisé une formation à Bâle où les médecins invités étaient instruits sur la manière dont le trouble devait être traité par stimulants et ou par antidépresseurs. Novartis se préoccupe cependant principalement des enfants. L'entreprise a ainsi publié un album illustré destiné aux plus jeunes. Le conte pharmaceutique raconte l'histoire de la pieuvre hippie-pop qui se fait toujours gronder parce qu'elle est à la fois partout et nulle part, et qu'il lui arrive sans cesse des mésaventures. Heureusement, Madame le Docteur Tortue découvre ce dont souffre Hippie Pop. Sa patiente est atteinte d'un trouble déficitaire de l'attention. Mieux encore, Docteur Tortue sait ce qu'il lui faut, un petit comprimé blanc. Derrière la consommation grandissante de médicaments se cache bien plus qu'une simple bougeotte. Cela fait des années que les laboratoires pharmaceutiques, aidés de certains neurologues, s'appliquent à présenter leurs contemporains nerveux et instables comme des individus malades devant être traités. Mais le mythe de l'enfant hyperactif est aujourd'hui comme jamais l'objet d'une attention passionnée, promettant ainsi des millions de chiffres d'affaires. À l'heure actuelle, au moins 12 molécules différentes destinées à être administrées contre le syndrome de la bougeotte sont en phase de développement clinique. Tout a pourtant commencé de manière bien innocente. Dans son livre Crastinias, le neurologue Heinrich Hoffmann, originaire de Francfort, décrivit en 1845 pour la première fois un enfant nerveux. Philippe qui gigote, le personnage de Hoffmann, ne pouvait rester en place. Sur sa chaise, il gigotait, se balançait, se dandinait et trépignait, jusqu'à ce que la chaise soudain bascule. Se cramponnant à la nappe, Philippe emportait alors dans sa chute soupe, vin, assiette, tout. Un demi-siècle plus tard, en 1902, la revue médicale britannique The Lancet publiait le compte-rendu d'un médecin qui prétendait avoir observé des enfants présentant un trouble de la volonté et une incapacité notable à se concentrer. Mais la véritable carrière du TDAH ne débute que des décennies plus tard. Elle a pour origine une découverte faite par hasard dans un laboratoire. En 1944, Leandro Panizzon, chimiste employé par l'entreprise Ciba. Petit astérisque. Ciba Geigy fusionna avec Sandoz en 1996 pour former Novartis, l'actuel fabricant de la Ritaline. Donc, Leandro Panizzon synthétisa et testa personnellement la molécule de méthylphénidate, sans toutefois noter de résultats convaincants. Sa femme Marguerite, surnommée Rita, goûta également la substance et remarqua un effet particulièrement vivifiant. Rita continua alors de prendre le produit de temps à autre avant de jouer au tennis. Et le chimiste Panizzon s'inspira du nom de son épouse pour baptiser sa découverte Ritaline. Le produit jugé anodin ne fut tout d'abord administré qu'à des adultes pour remédier à des états tels que la fatigabilité aiguë, les dispositions dépressives et la sénilité. Le tableau clinique qui devait rendre la Ritaline célèbre et la placer au cœur des débats n'avait pas encore été inventé.
C'était une parenthèse, c'était ce que je te disais, c'est vraiment le couteau suisse de la médication, c'est bon pour tout, quoi. T'es plus concentré, t'es plus dynamique, ça combat toutes les maladies de France et de Navarre et du reste de la planète. Non, c'est dingue, quoi. C'est vraiment le remède miracle, le sirop typhon.
Il fallut attendre les années 1960 pour que des résultats montrent l'effet notable du méthylphénidate et d'une molécule voisine, la dexédrine, sur les élèves en difficulté. Le psychologue Keith Connors et le psychiatre Léon Heisenberg menèrent les premières expériences sur la dexédrine dans le Maryland, dans deux écoles de Baltimore et qui accueillaient des enfants noirs de la classe populaire. Une fois la molécule administrée aux élèves, la cohue et le tapage qui régnaient normalement dans les écoles diminuèrent. Le comportement en classe, le rapport à l'autorité et la participation aux activités de groupe s'amélioraient chez les enfants traités, signalèrent leurs enseignants, qui avaient ainsi trouvé un moyen de rendre plus supportables les conditions de vie dans les écoles des ghettos. Donc là, on voit aussi que les premiers cobayes de l'expérience sont des noirs.
Oui, mais c'est normal parce que, comme tout le monde le sait, ils sont plus agités, ils sont incapables de se concentrer intellectuellement. Et donc c'était pour ça. Faut pas y voir du racisme. Tu vois le mal partout.
À la suite de ces résultats et de résultats similaires, le National Institute of Mental Health et quelques laboratoires pharmaceutiques entreprirent d'autres études sur la pilule d'obéissance. Les journaux consacrèrent bientôt certaines de leurs colonnes aux remèdes de miracle et le nombre de prescriptions grimpa en flèche. Toutefois, on ne savait toujours pas exactement contre quoi le comprimé devait être prescrit. Le problème de l'indication manquante fut résolu à la fin des années 1960 par des médecins américains dont le tour de passe-passe a encore aujourd'hui des conséquences. Les scientifiques proposèrent d'utiliser les médicaments pour diagnostiquer la maladie chez l'enfant. Si la prise du produit modifie le comportement du petit patient, c'est que ce dernier est malade. À l'inverse, les enfants qui ne réagissent pas à la molécule sont en bonne santé. Cette ruse laissa ainsi le champ libre à l'administration massive de drogues psychotropes aux enfants, pratique aujourd'hui courante. Jusqu'alors, il aurait été impensable de donner des amphétamines ou des substances analogues à des enfants uniquement parce qu'ils ne se comportaient pas correctement à l'école ou à la maison. Mais la situation était ainsi envisagée d'un tout autre point de vue. Il s'agissait en effet de soigner un syndrome pathologique. La maladie n'avait pu apparaître qu'avec l'existence de psychotropes. Le diagnostic serait établi par la thérapie.
Juste une parenthèse, en effet, c'est complètement vrai. Ça a été présenté, enfin, ce type de enfin, la façon de problématique, c'était présenté comme un symptôme de maladie, donc quelque chose, un problème collectif finalement. Mais à titre individuel, ça fait bien longtemps que, par exemple, pour les bébés, on disait qu'on mettait de l'alcool dans les biberons, mais aussi surtout, moi, je me souviens que c'était plutôt une espèce de sirop pour la toux qui te changeait un peu en courge, je veux dire en courgette, et qui était effectivement, mais à titre individuel, les parents, enfin les adultes en général, je veux dire le dynamisme des enfants est quelque chose qui est pas évident à supporter. Je veux dire pour la plupart des gens, surtout s'ils sont épuisés par leur boulot par exemple,
pour les parents,
ou s'ils ont, voilà, oui, les parents particuliers. même quelque part les enseignants, c'est eux, ils peuvent pas t'administrer un truc et tout, mais ils le regrettaient probablement, parce que quand on t'oblige à écouter un monologue pendant des heures, ça, mais qui fait ça, même quel est l'adulte qui peut supporter jour après jour d'écouter quelqu'un qui est pas Coluche en plus, hein, qui est barbant déjà par nature, de te parler pendant des heures et des heures le cul sur une chaise, alors que toi tu brûles de vivre, quoi, tout simplement. Ils auraient pu, ils l'auraient fait. Je pense que, franchement, la plupart des enseignants et des parents rêvaient, et puis les laboratoires ont effectivement trouvé, trouvé leur âme sœur avec pas mal d'adultes comme ça, à mon avis. Ils n'ont pas dû avoir beaucoup de mal à écouler leur marchandise. Excuse-moi, continue.
Non. À l'époque, en 1970, 2 à 300 000 enfants américains prirent ainsi des médicaments modifiant leur comportement. Leur nombre, aux États-Unis comme en Allemagne, n'a cessé de croître depuis. Les laboratoires pharmaceutiques appelaient le phénomène trouble fonctionnel du comportement, jusqu'à ce que cette désignation floue soit interdite par la FDA, la Federal Drug Association, l'Agence américaine du médicament.
Ouais, comme ça, bon.
Le trouble fut alors prestement rebaptisé et reçut le nom de dysfonctionnement cérébral minime. Plus tard, l'appellation trouble hypercinétique entint les crèches et les écoles primaires. Pour finir, l'Association américaine de psychiatrie inventa en 1987 l'abréviation ADHS, en français TDAH, encore utilisée aujourd'hui. Voilà, donc il fallait qu'on invente une maladie pour faire administrer ces substances aux enfants. Enfin, à un grand marché de consommateurs. Dans un marché en pleine expansion, et qui rapporte des milliards, la Ritaline est devenue le psychotrope pour enfants par excellence. Ses comprimés étaient pourtant plus chers que certains produits de la concurrence, mais à l'aide d'une campagne agressive qui faisait la promotion non seulement du médicament mais aussi de la maladie, le fabricant a su s'assurer la première place. Les publicités montraient notamment une salle de classe dans laquelle des enfants rayonnants étaient assis bien sagement. L'instituteur se tenait debout à côté du seul garçon dont le visage était flou. Cet enfant est victime du dysfonctionnement cérébral minime, une entité clinique qui peut être diagnostiquée et, dans la majorité des cas, traitée avec succès. Peut-on lire dans le texte qui accompagne l'image. La Ritaline, signale encore la publicité, peut jouer un rôle important dans ce traitement. Aujourd'hui, 30 ans après, les faits se reproduisent. Cette fois, l'action se passe aussi en Allemagne, et les entreprises les plus diverses se disputent le premier rôle. Toutes prétendent diffuser des informations de santé publique et cherchent de manière parfaitement ciblée à ancrer le phénomène du TDAH dans la conscience des médecins et de l'opinion publique. Lors du congrès des pédopsychiatres qui a eu lieu à Berlin en mars 2002, le laboratoire Medis, fabricant de Medikinet, si à Iserlohn a financé un séminaire sur le sujet. Ensemble, les concurrents Medis et Novartis, inhabituellement réunis pour la circonstance, ont soutenu un supplément de la revue Kinder und Jugendarzt, entièrement consacré au thème du TDAH et qui encourage la prescription de méthylphénidate. Le laboratoire pharmaceutique Lilly est, quant à lui, l'unique sponsor du cercle de recherche de Hambourg sur le TDAH. TDAH. Le groupe, formé de partisans du traitement médicamenteux, aspire à une extension nationale et a publié un guide à l'intention des médecins, des parents et des enseignants. Ces derniers revêtent une importance toute particulière pour le cercle de recherche financé par l'industrie. Souhaitant assurer leur formation, le groupe tente donc de mêler les autorités scolaires de Hambourg à sa campagne. Lilly a en outre soutenu un colloque sur les enfants et les adolescents agités, dont le sous-préfet lui-même était le parrain. Or, il se pourrait bien que l'engagement financier de Lily ait un fondement bien peu désintéressé. Le groupe souhaite bientôt demander l'autorisation de mise en vente de sa propre pilule d'obéissance afin d'attaquer la Ritaline, leader sur le marché. Ainsi que le rapportait la revue spécialisée Ärztliche Praxis, l'atomoxétine, la molécule développée par Lilly, doit améliorer le fonctionnement social et familial des enfants tout en comportant beaucoup moins d'effets secondaires que la Ritaline. Le tout récent produit est déjà disponible sur le marché américain. Le groupe pharmaceutique Janssen-Cilag, enfin, offre également un nouveau produit, le Concerta, autorisé depuis peu en Allemagne, agit dans le cerveau des enfants pendant 12 heures toute la journée. Tandis que les entreprises du médicament se partagent grâce à leur campagne les marchés d'aujourd'hui et de demain, les parents anxieux se demandent ce que représente réellement l'administration continue de psychotropes à des écoliers. Une bénédiction ou un scandale? Le pédiatre Klaus Skrolski, installé dans la ville franconienne de Forchheim, approuve avec véhémence le traitement médicamenteux. Quand le développement d'un enfant décline, nous nous devons d'intervenir avec des médicaments, déclare-t-il. Le leste pédiatre est installé depuis plus de 20 ans et aimé de tous. C'est lui qui a prescrit le méthylphénidate à Nina, à Félix et à bien d'autres enfants de Forchheim et des environs. Si le docteur Skrodski est devenu en Allemagne l'un des pionniers de la Ritaline, c'est tout d'abord en réponse à l'histoire de son propre fils Florian, né il y a 27 ans. Déjà à la crèche, on le remarquait, il n'arrivait absolument pas à dessiner et cassait beaucoup de choses, raconte son père.
Alors là, si tu te rappelles comment sont les gosses en bas âge, effectivement, les jouets, c'est, ça défile. Enfin, ça, les gosses en bas âge cassent des trucs, quoi, oui, c'est tout à fait naturel. Oui.
À l'école primaire, le fils du médecin est incapable de suivre. 6 semaines après la rentrée, le père vient chercher son fils à l'école et l'amène chez un confrère qui lui prescrit du méthylphénidate. C'était il y a 20 ans, donc 20 ans avant 2008, voilà. Les résultats scolaires de l'enfant restèrent cependant modestes. Florian quitta l'école sans diplôme, mais suivit ensuite une formation professionnelle comme jardinier, puis comme animateur équestre. Aujourd'hui, il nettoie les écuries dans un haras et donne des cours d'équitation aux enfants. À en croire sa mère, il s'entend mieux avec les chevaux qu'avec les êtres humains.
Oh !
Depuis. Alors, depuis, papa Skrotsky ne jure plus que par le traitement des enfants trop remuant ou inattentif. Grâce au méthylphénidate, on donne à l'enfant une chance d'exprimer ses capacités, déclare-t-il. Quant à savoir ce qui est si typique, si particulier chez les enfants atteints du TDAH, le médecin répond « Ils sont capables de me faire tourner en bourrique dans mon cabinet. » Et il ajoute « Mais ils sont souvent bien plus intéressants que les autres enfants. » Klaus Skrotsky prescrit également le produit à des enfants de moins de 6 ans quand il le juge nécessaire, et ce bien que le fabricant lui-même mette en garde contre une telle indication. Son plus jeune patient était âgé de 3 ans. « Je craignais que la mère n'égorge son enfant », explique-t-il pour justifier la prescription.
À l'inverse de... Là aussi une parenthèse. C'est, évidemment, c'est vrai qu'on peut dire que des fois, l'idée de traverse, de quand ils t'emmerdent de trop, de les fiches par la fenêtre, mais ça ne veut pas dire que tu as la moindre chance de le faire. Si tous les parents qu'on songeait à ça l'avaient fait, effectivement, ça aurait beaucoup compromis la reproduction humaine, hein, je pense. Mais c'est du foutage de gueule de prétendre ça. Voilà, c'est tout.
À l'inverse de son confrère, le pédiatre Dietrich Schulz, installé depuis 20 ans à Wolfratshausen, en Bavière, voit avec une inquiétude grandissante la prescription de méthylphénidate gagner de l'ampleur. Certes, il lui est arrivé de prescrire le médicament occasionnellement parce qu'il est efficace dans des cas précis, mais le médecin, qui est également psychanalyste, met en garde contre une prescription bien trop fréquente. Le TDAH est une construction. Il permet d'expliquer chez l'enfant un comportement généré par notre société, estime Dietrich Schultz. On coiffe toute une génération d'enfants avec ce chapeau. Schultz craint en outre que bien trop souvent le médicament soit administré aux enfants sans que soit proposée aucune autre thérapie. Se contenter de prescrire ce médicament sans autre forme de procès est une faute professionnelle. C'est précisément cette démarche qui porte gravement atteinte au petit patient. Elle pourrait en effet signifier pour lui que son intelligence et son univers émotionnel sont défaillants. Le désaccord des pédiatres est représentatif de la violente croisade qui oppose les psychologues, les thérapeutes, les enseignants, les mères, les pères, les grands-parents et les hommes politiques. L'administration massive de médicaments aux enfants cache-t-elle vraiment une augmentation réelle des anormalités comportementales pathologiques ? Ou bien s'agit-il simplement de faire taire, grâce aux psychotropes, les problèmes qui règnent dans les familles, les crèches et les écoles allemandes ? Une chose est sûre, les inventeurs de maladies n'auront de cesse qu'ils ne présentent le plus grand nombre d'enfants comme psychiquement anormaux, dérangés ou malades. Angoisse, un enfant sur sept a besoin d'être traité. C'est avec ce gros titre que la Société allemande de psychiatrie, de psychologie et de neurologie veut choquer. Le communiqué de presse, sponsorisé par 5 laboratoires pharmaceutiques, ne prend pas même la peine d'indiquer les sources qui ont conduit à cette affirmation. Il arrive parfois même que les conditions de vie suffisent à transformer les enfants en petits patients. L'augmentation du nombre de divorces entraînerait, selon le psychiatre Richard Garner, une multiplication du parental alienation syndrome. On sait depuis longtemps déjà que les enfants peuvent souffrir de la séparation de leurs parents. Mais cette souffrance est-elle vraiment une maladie à proprement parler ? Les frontières entre l'invention sérieuse de maladie et la satire s'effacent. En 1985, Jordan Smoller, de l'Université de Pennsylvanie, écrit ainsi dans un article particulièrement apprécié que l'enfance est un syndrome ne retenant que depuis peu l'attention des cliniciens. Au nombre des symptômes les plus importants de cette maladie, Smoller compte notamment l'immaturité et le nanisme. Selon lui, les créatures bruyantes et courtes sur pattes nous sont certes familières, mais le traitement des enfants est néanmoins resté inconnu jusqu'à notre siècle, jusqu'à l'apparition des pédopsychologues et des pédopsychiatres. Fin de citation. Le traitement des tout-petits, continue Smoller, s'avère particulièrement ardu. Ces derniers seraient en effet, je cite, connus pour se comporter de manière infantile et faire preuve d'un manque consternant de discernement.
C'est
mieux. Ah, les tout petits sont trop infantiles.
Oui, c'est vrai, c'est un problème. Oui. C'est vrai, il faut le traiter.
Voilà. Donc, il y avait une brochure aussi, comme ça, qu'on distribue, enfin, qui faisait partie de notre info-kiosque à une certaine époque, justement, qui dénonçait l'administration de Ritaline et l'invention du TDAH.
Et ça se trouve peut-être encore sur info-kiosque, non ?
Je ne sais pas, mais...
Il y a un site qui s'appelle InfoKiosque, il y a une espèce de moteur de recherche. Il peut y avoir... tu vois, il y a résistance à la psychiatrie, il y a toutes sortes de mots-clés. Puis, je regarderai, mais ça m'étonnerait pas que même on met simplement Ritaline et InfoKiosque et qu'on retrouve cette brochure.
Et donc, cette brochure était intitulée « L'enfance est une maladie ».
Oui, pas mal. Qu'est-ce que je veux dire tu veux qu'on mette une musique avant de faire des commentaires ou on continue ?
Non, on va faire des commentaires parce que
oui,
de toute façon,
voilà. en effet, l'idée d'une manière générale, c'est-à-dire que c'est particulièrement choquant parce que les enfants n'en peuvent mais. Enfin, je veux dire, j'en ai su quelque chose puisque je me suis retrouvée effectivement pour déjà aussi même le fait que j'étais rebelle en classe, mais plus tard parce que j'étais un peu trop intéressée par les garçons de ma classe. Enfin, j'ai eu toutes sortes de motifs. Je me suis retrouvée face à vraiment toute une batterie de psychiatres. Je trouve que si tu veux, le côté tout psychiatrique comme ça, avec cette idée qu'il faut toujours avoir la banane quoi qu'il arrive, même quand t'as un boulot de merde, même quand il t'arrive des trucs où objectivement c'est logique d'avoir un passage pas évident, que tu pourrais peut-être passer même simplement si tu recherches par exemple des amis qui peuvent t'écouter, t'aider, enfin tu vois, des choses comme ça. Mais non, cette espèce d'obligation comme ça, mais pour les enfants c'est pire parce que t'es vraiment impuissant, quoi. On te fait, les parents, les enseignants, t'es vraiment très vulnérable, je veux dire, à tout ça. Ouais. Si t'as, et les psychiatres sont là pour vraiment t'achever, quand même, un peu beaucoup, quoi. Mmh. Et je te racontais tout à l'heure un truc à l'époque où, en effet, on a commencé à parler beaucoup de l'hyper, enfin, de la Ritaline, mais aussi simplement de cette maladie. Dans le bouquin, il dit à plusieurs reprises que les médias ont un rôle important à jouer pour la promotion de la maladie, donc d'en faire une réalité, et pour évidemment, dans la foulée, tu vas te procurer le médicament qui soigne cette maladie. Et il le démontre, et c'est vrai. Enfin, je pense, à l'époque où la Ritaline a été inventée, on était saoulés tout le temps, une vingtaine d'années, hein, donc par des talk shows, des reportages, les enfants hyperactifs, le problème de l'hyperactivité. Et j'avais vu comme ça un talk show où les parents, et ça arrivait souvent ce genre de truc, ils traînaient leur malheureux gamin sur un plateau télé pour le montrer comme étant un problème dont d'ailleurs même les médicaments venaient difficilement à bout, donc il aurait fallu probablement améliorer encore, mais enfin bon, c'était mieux mais pas suffisant, quoi. Et donc Laurent dit souvent d'ailleurs à ce sujet, sur les gens qui ont des problèmes, n'est-ce pas, avec leurs enfants, enfin, où les enfants seraient rebelles d'une manière ou d'une autre, que quand c'est des prolos, c'est la faute des parents. Et quand c'est des bourgeois, ils ont pas de bol, tu vois. Mais c'est vrai, en plus, c'était vraiment ça. Oui. Donc là, c'était des bourgeois, et donc il y en avait, je m'en rappelle en particulier de deux, qui s'étaient pointés. Il y avait la famille, hein, carrément, qui était là, et qui poussait en avant des gosses qui avaient dans les 10 ans, hein, j'aurais dit. Et le truc, c'est que déjà, ils parlaient des enfants comme s'ils n'étaient pas là, ce qui est déjà extrêmement choquant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très, très irrespectueux, quoi, je veux dire, de faire ça. Déjà, de traîner le gosse, c'est pas lui qui a demandé, est-ce qu'on le présente comme étant quelqu'un qui est malade, qui fait souffrir sa famille, parce qu'il gênait beaucoup les parents. Oui, ça n'a pas été marrant. Enfin, c'était... Enfin, d'ailleurs, entre parenthèses, dans un épisode des Simpsons, on administre de la Ritaline à Bart Simpson, qui devient complètement paranoïaque. Mais donc c'était un truc anti-Ritaline, hein, dans le Simpson. Mais enfin, oui. Bon, bah là, je sais pas comment étaient les gosses en question, mais bon, voilà, ils parlaient d'eux devant eux, et puis à un moment donné, le gosse, il y a un des gosses qui prend la parole, un petit garçon, il prend la parole, mais de force un peu, parce qu'on lui avait pas donné, hein, et il dit. J'aimerais bien que vous vous rappeliez que quand même vous parlez de moi comme d'un cas d'une maladie, mais que derrière la maladie il y a un petit garçon. Il dit ça comme ça. Oh, je te jure, ça te bouleverse, quoi, quand t'entends ça. Tu vois, c'était très touchant. Et puis avec les parents qui étaient en mode bon, enfin bon, non, si c'est une maladie. Et là, la petite fille qui était à côté, puis qui était mangeait la même sauce, quoi. Elle prend la parole aussi et elle dit. Ouais, non, mais moi, c'est surtout que c'est depuis, enfin, ça va pas, c'est surtout quand mes parents, ils s'engueulent, mais faut voir, ils pètent tout, il y a mon père, il traite ma mère de grosse pute, et tout. Et là, le garçon se tourne, ah, toi aussi, c'est comme ça chez toi. Les parents. parents complètement fous, quoi. Ah, tu vois. L'écoutez pas, c'est une menteuse, elle fait que mentir tout le temps, il faudrait remettre une dose encore de médicaments et tout pour l'empêcher de mentir. Ah, vous voyez, c'est un symptôme, elle ment. Mais on les voyait complètement paniquer. Et je veux dire, t'as pas besoin d'un sous-titre pour comprendre que, bien sûr, ils disaient la vérité. Et que, après tout, c'est un peu normal quand t'es dans une ambiance comme ça, d'être un peu nerveux, quoi, au bout du compte. Donc, voilà, quoi, tu vois, de toute façon, ça, c'est dans le cas où ils sont réellement un peu nerveux, un peu trop nerveux, enfin, qu'ils se sentent eux-mêmes pas bien, mais il y a plein de cas où, tout simplement, le dynamisme des enfants insupporte les adultes, et puis c'est tout. Mmh. Bien, c'est des cancres, et puis ils voudraient que ce soit des bons élèves pour devenir docteur ou prof quand ils seront plus vieux.
Voilà. Bon, et puis ça, ouais, ça aussi corrobore le fait que on vit dans une société où ce qui prime, c'est la performance et non pas la coopération ou la considération de tout ce qui peut être aléatoire, de tout ce qui peut être inattendu ou tout ce qui peut être pas dans le canal de la performance, quoi, en fait.
Bah oui, parce que dans le chapitre, là, il est quand même beaucoup question que ce soit des bons élèves. Et pourquoi faut être un bon élève pour plus tard faire un métier prestigieux, enfin aller faire des études et puis après être même quand tu feras pas d'ailleurs forcément des études, au moins que tu sois un bon travailleur, bien soumis, etc. Et ça, l'école, c'est quand même la plupart des trucs qu'on a appris à l'école. Quand je dis la plupart, je suis gentille, on les a totalement oubliés, je suis sûre. Enfin, les gens qui prétendent le contraire, faut pas leur faire une interrogation. En revanche, ça leur apprend un truc, c'est justement passer leur journée à faire un truc sans intérêt et à se soumettre, finalement. Et à la norme aussi.
D'où son nom, la pilule de l'obéissance.
Voilà.
Je vais faire une petite annonce et puis... Alors, on est toujours sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir qui va bientôt se terminer. Après juste cette l'annonce d'un événement qui a lieu en Bretagne. Dans les environs de Douarnenez. Et alors ça s'appelle Vie de Radeau. Alors c'est sur Vie de Radeau. Enfin c'est. C'est un événement de plusieurs jours avec ça a commencé le 9 novembre. Le 9 novembre c'est samedi prochain, mais ça a commencé le 3. Le 3 et donc je vais vous donner le programme vite fait. À partir de dimanche, de vendredi 8, alors il y aura une discussion autour des clubs thérapeutiques que l'on trouve dans quelques hôpitaux et cliniques psychiatriques. Ce sont des associations mêlant soignants et soignés qui cherchent à faire du collectif un outil de soins issu d'une tradition psychiatrique subversive, dit l'annonce, qui cherchait à rompre les enfermements de l'asile. Les clubs sont pensés lors de leur création au milieu du XXe siècle comme des moyens de travailler les aliénations sociales et mentales. Discussion avec des membres des clubs de Landerneau, Crozon et Pont-de-Buis à la Maison solidaire de Kermaron, 29 bis rue Charles de Foucault, Douarnenez. Entrée libre, donc c'est le vendredi 8 novembre à 14h. Le samedi 9 novembre, il y aura Accueillir l'intensité, session d'écoute collective. Venez partager une écoute collective, une discussion, un café et un thé. En mars dernier, plusieurs membres du collectif Vie de Radeau ont été accueillis quelques jours à la clinique institutionnelle de Laborde à Courchevernie. Accueillir l'intensité est un montage sonore fabriqué à partir d'échanges sur ce thème à cette occasion.
c'est également un moment possible pour découvrir la petite bibliothèque de vie de Radeau. Dimanche 10, alors non, samedi 9, il y aura aussi, alors ça c'est à 14h30, à 19h30, et donc c'est toujours à Douarnenez. C'est à, alors il y a, cet événement c'est à l'aéroport 15 rue Grivard à Douarnenez. Et ce deuxième événement, le soir à 19h30, échange avec 13 autrices de charge, j'ouvre le huis clos psychiatrique. Partant de son vécu, 13 analyse le système psychiatrique avec des mots choisis, remet du complexe dans nos imaginaires, c'est brut et d'une grande délicatesse. Et donc c'est à la librairie de l'Angle Rouge, 9 rue de l'Hôpital, Douarnenez. Donc là c'est entrée libre, hein, tout ça. Dimanche 10 novembre, discussion autour de la relation d'aide. Quelles questions se posent lorsque, face aux troubles psychiques, on aide ou l'on se fait aider ? Alex et Julie sont notamment formateurs en premier secours en santé mentale, anciens et anciennes travailleuses de l'ATRAM, structure d'accompagnement à Saint-Denis, et portent un projet de lieu de répit près de Redon. On parlera autour de la relation d'aide en santé mentale, en prenant appui sur la formation qu'il et elle donne, mais aussi sur les accompagnements collectifs alternatifs du réseau PsyPsy et sur les méthodes de l'Open Dialogue. Ça sera à la librairie de l'Angle Angle Rouge, 9 rue de l'Hôpital, Douarnenez, donc dimanche 10 novembre, à 14h30 à 17h30. Et à 18h ce même dimanche, à la Cantate, un boulevard Camille Réault à Douarnenez, scène ouverte, concert de Léonore Boulanger Trio. Donc ça sera aussi un moment pour partager quelque chose, un texte, un chant, une parole, une écoute, un film, un geste, si vous en sentez l'envie, il convient de nous envoyer un petit message jusqu'au vendredi 15, donc 2 jours avant ce jour-là, afin qu'on puisse organiser les passages. On se donne une limite de 5 minutes pour chaque proposition. On a soif de les découvrir et de partager ce moment ensemble. Enceinte et vidéo projet dispo. Et puis on clôt la soirée avec un concert de Léonore Boulanger, Jean-Daniel Botta et Laurent Sériès. Donc ça c'est à la Cantate, 1 boulevard Camille Réault, dimanche 17. Alors après on a... oui, alors c'est un peu dans le désordre. Lundi 11 novembre, rencontre avec Anatole Lebras. Qui sont les aliénés, celles et ceux que l'on interne au 19e siècle? Comment vivent-ils? Comment vivent-elles? Comment y arrivent-ils? Qu'est-ce que l'on nomme alors folie? Anatole Lebras, qui a fait de ce sujet son terrain de recherche, propose de vous mettre entre les mains des documents d'archives, fragments de récits de vie d'aliénés. De là, il nous parlera de son travail d'historien, en même temps que nous découvrirons ce que ces documents nous racontent de l'asile et des aliénés au XIXe siècle. Mercredi 13-11, atelier fanzine, autour des termes de normes, de soins, d'accueil et de santé mentale, pour un moment de créativité avec des médiums en tout genre, linogravure, collage, dessin, machine à écrire, dans le but de créer ensemble un fanzine à diffuser autour de soi. Au port rue, 45 boulevard Camille Réault, Douarnenez. Samedi 16, ressources collectives et structures, vers quoi, vers qui se tourner quand on fait face à une situation psychique délicate qui nous concerne nous-mêmes ou nos proches depuis le Finistère. Des coordonnées de ressources, collectifs et structures seront collectées au fur et à mesure de Vie de Radeau. Ce temps permettra d'en parler, peut-être aussi à des collectifs et structures de se présenter, sous réserve. Brunch participatif à partir de 12h30, puis présentation et discussion à 14h, au presbytère 10 rue Ernest Renan, Douarnenez. Après, il y a un atelier de tissage, de brodage, de raccommodage. Il y a c'est à Quimper. Il y a le mercredi 20, la projection de Frida TV, un film de Léa Lanoé. Mercredi 20 novembre à 18h, projection en présence de la réalisatrice dans le cadre du mois du doc. C'est au club 39 rue Berthelot Douarnenez. Et c'est une histoire de Frida
qui vit dans la Karl-Kunger-Straße à Berlin. Frida, c'est aussi Jeannette ou Mathias, et selon, elle change de nom, de sexe, de diagnostic quand ça lui chante. Frida se heurte au monde, à sa maladie. Point de suspension. Et voilà. Donc ça, c'est un petit festival qui a lieu à Douarnenez, intitulé « Vie de radeau », autour des santé mentale, normes, soins, hospitalité, ateliers, rencontres, discussions, projections, écoute radio, partage, concert. Voilà. Ainsi termine l'entonnoir. Merci.
Est-ce que je peux suggérer, donc, pour la semaine prochaine, si tu es d'accord, il y a d'autres chapitres du livre qui, à mon avis, sont également très très intéressants.
Exactement.
Voilà.
Donc, on va poursuivre avec ce livre. Bonne écoute de Radio Libertaire à la suite des programmes. Et notamment, je vous propose la réémission d'une émission qui a lieu normalement le mercredi, je pense, après Femmes Libres, c'est Carapatage. Et Carapatage, avec un. Alors, c'est une. Comment dire. C'est une émission du 17 février 2021. Mais elle nous intéresse ici parce qu'elle nous parlait des hospitalisations sous contrainte.
Juste une parenthèse, Laurent me dit, donc c'est Laurent est le libraire de la librairie publique, enfin il est,
oui.
Il est bénévole,
l'animateur de l'animateur,
très souvent présent dans la librairie Publico, que le livre dont on vient de parler est épuisé, mais on le trouve en occasion sur le net, à pas cher. Voilà. Donc ça s'appelle le Georges Blech, Les inventeurs de maladies. Voilà, c'est un livre de poche.
Oui. Au revoir. Alors, Carapatage.
Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur. En échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.